France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Saint Alexis d'Ugine, né en Russie en 1867 et mort à Ugine, en Savoie, en 1934, dont la sainteté a été proclamée solennellement par un acte synodal et patriarcal du patriarcat œcuménique de Constantinople en 2004. Pour parler de ce saint de notre temps, qui est mort en France et dont les reliques se trouvent au monastère orthodoxe Notre-Dame de toute protection, en Bussy-Hainaut, nous recevons l'archiprêtre Alexis Struve, recteur de la paroisse Saint-Basile-le-Grand et Saint-Alexis-le-Juste à Nantes, et vicaire épiscopal du vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis d'Ugine, au sein de la métropole de France du patriarcat œcuménique. Père Alexis, bonjour.
Bonjour.
Vous avez récemment donné une conférence à Paris dans le cadre des rencontres Saint-Stéphane, où vous avez présenté la vie d'Alexis Medvedkov, devenu Saint-Alexis d'Ugine, en insistant sur le caractère ordinaire de sa vie, ou plutôt une vie qui n'a rien d'extraordinaire. Qu'en est-il au fait ?
Alors, lorsque j'ai prononcé cette conférence, le terme ordinaire a un petit peu choqué l'assistance. Ce que je voulais dire lorsque je disais ordinaire, c'est que selon les critères de ce monde, finalement, avec le père Alexis, nous avons affaire à un homme qui somme toute, on dira, ne sort pas du lot, n'a rien de remarquable. Cet homme ordinaire s'est retrouvé dans la tourmente de la Révolution russe, je dirais là où la petite histoire rencontre la grande histoire. Pour autant, c'est un exemple pour nous, dans la mesure où, justement, la petite histoire, lorsqu'elle rencontre la grande histoire, peut donner des résultats absolument extraordinaires.
Très bien, merci beaucoup d'introduire comme ça cette vie ordinaire qui n'est pas quand même ordinaire, on va le voir. Alors, quelques mots sur sa vie quand même en Russie et puis jusqu'à l'arrivée en France, on va dire.
Alors, comme vous l'avez dit au début, Alexis est né en 1867, le 1er juillet. Il vient d'une famille de prêtres. Son grand-père était prêtre. Son père était le père Johann, était prêtre et recteur d'une grande église Saint-Nicolas dans un village dans la région de Smolensk, pas très loin de Moscou. Et Alexis a perdu son père très vite après sa naissance. Le père Johann mourut très vite, laissant seul son épouse. Alexis va avoir une éducation somme toute classique, je dirais, pour l'époque. Il va commencer par le petit séminaire. Et puis ensuite, il va passer très naturellement au grand séminaire où il sera inscrit à Saint-Pétersbourg, dont il va sortir diplômé en 1889. À l'âge de 22 ans. Il faut bien être conscient que la famille Medvedkov vivait dans une pauvreté quand même toute relative, enfin difficile, ce n'était pas simple. À Saint-Pétersbourg, Alexis va trouver du travail, et là aussi, une sorte de, je dirais, de mouvement naturel, il va trouver comme travail le fait d'être lecteur à Saint-Pétersbourg dans l'église Sainte-Catherine, qui est une église qui est connue à Saint-Pétersbourg, qui se trouve sur l'île Saint-Basile, dans le centre de Saint-Pétersbourg. Et c'est pendant cette période qu'il va épouser Maria Blagavinskaya, et ils vont vivre ensemble des revenus de lecteur d'Alexis. Et puis, père Alexis va faire une rencontre extraordinaire pour lui, dans tous les cas, qui va le marquer jusqu'à la fin de ses jours. Encore sur son lit, je dirais sur son lit de mort, il s'en rappellera. Il va rencontrer le père Jean de Kronstadt, qui sera canonisé lui-même plus tard, et à qui il va demander la bénédiction pour se faire ordonner. Alors, à 28 ans, le 24 décembre, il va être ordonné au diaconat, et le lendemain, le jour de la synaxe de la Mère de Dieu, le lendemain de la fête de Noël, c'est la synaxe de la Mère de Dieu, il va être ordonné à la prêtrise par le métropolite de Saint-Pétersbourg. Très rapidement, le père Alexis va être nommé prêtre à l'église de la Dormition de la Mère de Dieu, un village de Vrouda, qui se trouve à peu près à 95 kilomètres à l'est de Saint-Pétersbourg. Et le père Alexis va arriver dans cette paroisse avec sa femme et sa mère. cette paroisse avait 13 villages. C'était pas une paroisse qui était très riche, mais elle était grande en taille. Elle comptait à peu près 1500 paroissiens. Le père Alexis va mettre toutes ses forces, et en fait toute sa vie, ça sera ça. Il va mettre toutes ses forces dans l'éducation des enfants. Il va créer 4 écoles rurales, et pendant 23 ans, il va desservir cette paroisse de l'église de la Dormition. Et puis, arrive le drame de la Révolution russe. Et le père Alexis ne pourra pas échapper à cette révolution. En 1919, il va être arrêté. 1919, il a 52 ans. Et il va être accusé. L'accusation principale, c'est d'avoir enseigné la foi orthodoxe. Et en prison, il ne va pas y rester longtemps. Mais durant cette période, il va être confronté à la violence et aux brimades. Et il en gardera des traces physiques jusqu'à la fin de sa vie. Il va être condamné à être fusillé, et finalement sa fille, Ekaterine, la fille aînée, a réussi à le sauver. L'histoire raconte, on n'a pas de témoin direct de ça, qu'elle s'était proposée en otage à sa place. Finalement, il va être libéré, et les enfants spirituels du père Alexis vont l'aider à fuir en Estonie avec son épouse et la fille cadette, Olga. Estonie, qui venait juste à ce moment-là obtenir son indépendance politique. En Estonie, la famille Medvedkov va s'établir au nord-est du pays, dans une toute petite ville ouvrière qui s'appelle Kohtla-Järve. J'ai toujours du mal à la prononcer correctement. Et père Alexis va travailler dans les mines de schiste, ce qui sera mauvais pour sa santé. Finalement, il va réussir, après quelques années, à être muté et à travailler comme gardien de nuit. En parallèle, il va mener, en parallèle à son travail d'ouvrier, il va mener une activité pastorale, et une activité pastorale essentiellement tournée vers les réfugiés russes qui étaient très nombreux et qui travaillaient comme lui dans les mines. Les offices, à l'époque, se déroulaient dans une petite pièce mise à la disposition des croyants par l'administration des usines. C'est une tradition que l'on va d'ailleurs retrouver en France plus tard. Et là aussi, père Alexis va déployer un zèle pastoral dans l'éducation des enfants. Et il va passer ainsi 10 ans en Estonie. Et en 1929, ne voyant pas de perspective, finalement, à sa famille, sa fille Catherine, et Ekaterine étant déjà en France, le père Alexis va écrire au métropolite Loge. Métropolite Loge, qui à l'époque était responsable de l'administration diocésaine des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Il va lui écrire pour lui demander à être reçu dans le diocèse d'Europe occidentale, dont le siège était à Paris, rue Daru. Et cette correspondance avec Mgr Loge, à propos du passage en France, du père Alexis et de son épouse, va durer près d'un an. Finalement, l'accord va être obtenu, mais là aussi, le père Alexis va rencontrer encore des obstacles. D'une part, sa femme va mourir en 1930, suite à une longue maladie. Donc, il va se retrouver en charge de sa mère et en charge de sa fille Olga. Enfin, en décembre 1930, à l'âge de 61 ans, père Alexis va pouvoir arriver en France avec sa fille et son petit-fils.
C'est le moment de faire notre pause, et nous allons bien sûr au monastère Notre-Dame de toute protection, qui est en Bussy-en-Othe, puisque les reliques de Saint-Alexis se trouvent là-bas, et on est dans la liturgie. On va entendre donc la petite entrée, et après l'autre père du monastère, donc Notre-Dame de toute protection, et puis celui de Saint-Alexis d'Ugine.
Thank you.
Et après cette prière, dans le monastère de Notre-Dame de toute protection, on était dans l'église. Donc au moment de la petite entrée, on a entendu, aussitôt après, le tropaire de Saint-Alexis d'Ugine. Un mot peut-être, Père Alexis Struve, on est avec vous pour évoquer la vie de ce saint et puis évidemment ce qui est après sa vie, ce qui, là et là il y a de l'extraordinaire, on va le voir. Mais peut-être un mot sur ce tropaire, quel est le côté qu'on met en avant? Enfin, on sait que pour chaque saint il y a un chant qui met en avant ses qualités propres.
Alors on met en avant dans ce tropaire essentiellement le caractère de pasteur. De pasteur du père Alexis, de saint Alexis. Ce tropaire dit qu'il fut une règle de foi et un exemple de miséricorde. On dit dans ce tropaire qu'il a brillé par sa sollicitude envers son troupeau et qu'il fut révélé comme étant glorifié par Dieu. Et je crois qu'effectivement, c'est tout son travail pastoral fait avec une humilité étonnante, qui a porté des grands fruits, qui fera que l'Église prendra la décision finalement de le canoniser au-delà du caractère extraordinaire de l'incorruptibilité de son corps.
Alors, on revient à votre récit de tout à l'heure. On a vu le père Alexis, devenu saint Alexis, donc arriver en France. Pour quelques années, hein, ça ne va pas être long en France.
Alors, donc, il arrive en 1930. Il est nommé pour quelques semaines à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris, au siège de cette administration diocésaine. Et puis, très rapidement, le 15 décembre 1930, il va être nommé recteur de l'église Saint-Nicolas à Ugine, en Savoie. Ugine, c'est une toute petite ville qui se trouve entre Albertville et Megève, si on veut la situer. En fait, c'était à l'époque un grand centre métallurgique avec plus de 600, près d'un millier d'ouvriers russes qui travaillaient dans ces usines. Et l'église avait été aménagée dans un baraquement qui appartenait à l'usine. En fait, l'administration de l'usine avait mis à disposition ce baraquement, avait donné des moyens pour pouvoir y placer un iconostase, en faire une église. Et l'administration de l'usine avait octroyé au père Alexis un logement gratuit et lui allouait de l'argent pour sa subsistance. Et en outre, la paroisse lui donnait ce que l'on peut appeler un petit peu un complément, un peu d'argent de poche. Alors cette paroisse n'était pas une paroisse facile. Elle était composée d'immigrés russes travaillant dans cette usine métallurgique, et c'était essentiellement des anciens militaires, dont certains étaient des gradés, certains des hauts gradés, habitués à commander, et qui se considéraient comme les maîtres absolus de la communauté russe, et du coup, les maîtres absolus dans la paroisse. Mais le père Alexis ne leur cédait rien sur tout ce qui concernait les questions ecclésiales, qui pour lui avait une importance de principe. Alors ça va susciter des tensions, de l'indignation, et pas d'un très grand nombre de personnes, mais de personnes qui sont malheureusement, enfin qui étaient influentes. En outre, certains ne supportaient pas la longueur des offices. Visiblement, les prêtres précédents célébraient plus rapidement, alors que le père Alexis était un liturge. Le père Alexis aimait célébrer, et le père Alexis proposait à ses fidèles et offrait au Seigneur des offices qui étaient complets. Alors ils ont envoyé une plainte contre le père Alexis au métropolitologe, et finalement le métropolitologe va convoquer le père Alexis à Paris, et après avoir rencontré le père Alexis, finalement le métropolitologe va donner raison à père Alexis, et il va ordonner d'élire un nouveau conseil paroissial, et l'incident va être clos assez rapidement. Mais en fait, assez rapidement, père Alexis va tomber malade. On va diagnostiquer un cancer de l'estomac, et cette maladie va progresser très rapidement. Il fut opéré, mais ses jours, en fait, étaient déjà comptés. Et à l'époque, il voulait se réconcilier avec tous et demander à ceux qui Il lui voulait du mal de venir le trouver pour qu'il puisse leur demander pardon. Et en fait, ils ne sont pas venus. Et ça a été, je crois, une grande peine pour Père Alexis jusqu'au bout. Mais la veille de sa mort, le Père Alexis put se confesser et communier à un prêtre qui était à Annecy. Et le 22 août 1934, tôt le matin, Père Alexis va rendre paisiblement son âme à celui qui, depuis sa jeunesse, il avait servi de tout son cœur. Ses funérailles vont se passer dans un contexte qui est particulier. C'était un jour de grève. Et à Ugine. Et dans la mesure où c'était un jour de grève, les ouvriers pouvaient ne pas aller travailler, n'allaient pas travailler. Et donc, tous se sont rassemblés pour assister aux funérailles de leurs prêtres qui ont été célébrées par un prêtre qui est venu de Grenoble, Père Georges Schumkin. Toute la population russe était là. Et finalement, ce service funèbre, les témoins le relatent, va se transformer petit à petit en un triomphe lumineux et plein de joie. Et il fut enterré à ce moment-là dans une sépulture provisoire.
Bon, nous allons maintenant aller plus loin parce que cette vie ordinaire est terminée maintenant sur Terre et on va voir l'extraordinaire arriver. Bon.
Alors je pense que l'extraordinaire était déjà arrivé, mais on ne le savait pas, on ne le voyait pas. On n'est pas capable forcément de le voir. Effectivement, les années passent et va commencer une nouvelle histoire qui, je crois, dépasse le père Alexis lui-même. En août 1956, le cimetière municipal d'Ugine fut désaffecté et à cette occasion, on a dû ouvrir toutes les tombes et on retrouva le corps incorrompu du père Alexis. Il n'y avait plus de cercueil, le corps était à même la terre, le corps était souple, tous ses ornements, parce que les prêtres sont enterrés dans leurs ornements de prêtres, avec un évangile, tous ces ornements étaient impeccables. Alors, la commune l'a laissé pendant 3 jours à l'air libre, pensant qu'il allait se décomposer et qu'on pourrait justement le réduire pour pouvoir le réenterrer. Et le père Alexis a fait de la résistance, il ne s'est pas décomposé. Et cet événement insolite donna lieu à des tas de publications et des publications dans les journaux locaux de la ville. Et l'Église orthodoxe a commencé à s'intéresser donc au cas de ce prêtre de province inconnu. Le métropolite, à l'époque, Monseigneur Hologe n'était déjà plus métropolite et était remplacé par le métropolite Vladimir. Le métropolite Vladimir a envoyé un prêtre pour se faire une enquête. Et c'est l'archiprêtre Paul Puchalski qui s'est rendu à Ugine. Il venait du monastère de Bussy-en-Othe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui était le père Alexis. Arrive 1957, donc un an plus tard, avec la bénédiction du métropolite Vladimir, on décide de transférer le corps du père Alexis dans la crypte de l'église de la Dormition au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, au sud de Paris. C'est un cimetière où étaient enterrés de nombreux Russes de l'émigration et où il y a une très belle chapelle orthodoxe. Et dans la crypte de cette chapelle orthodoxe sont enterrés tous les hiérarques qui ont dirigé le diocèse de l'archevêché russe en Europe occidentale. Et donc, le transfert de ce corps va se faire. De nouveau, le cercueil va être ouvert. De nouveau, on va trouver le corps incorrompu du père Alexis. Et un convoi va partir. Et le convoi, à l'époque, les transports n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui. Le convoi va s'arrêter au monastère de Bussy-en-Othe, de la protection de la Mère de Dieu. Il y avait une relation particulière avec ce monastère parce que la supérieure de ce monastère, Mère Théodosie, a été particulièrement intéressée par la vie de Père Alexis et il était à mi-chemin entre les deux. Et donc, le corps de Père Alexis, après une nuit passée au monastère de Bussy-en-Othe, où seront célébrés les offices à sa mémoire, va reprendre la route et va arriver à Sainte-Geneviève-des-Bois, où va être célébré un office à sa mémoire. Et chose extraordinaire, mais qui peut paraître ordinaire pour le commun des mortels, il va réunir des orthodoxes de toutes les juridictions. Alors que vous savez qu'entre les juridictions orthodoxes, mais on trouve ça un peu dans toutes les églises, il y a toujours des tensions qui existent. Et cet homme a réuni autour de lui des prêtres de toutes les juridictions, et ça a été un moment rare de prière. Et de plus en plus de gens incluaient l'archiprêtre Alexis dans leur diptyque et se mirent à prier, à demander son aide et à visiter sa tombe dans la crypte de l'église de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Et donc l'acte de 2004 est devenu tout naturellement une suite attendue.
Oui, donc en 2003, à ce moment-là, l'archevêché était dirigé par l'archevêque Gabriel de Comanne. Il va demander au patriarche œcuménique Bartholomée de canoniser l'archiprêtre Alexis. Et le 16 janvier 2004, comme vous le disiez, le Saint-Synode du patriarcat œcuménique de Constantinople va canoniser le père Alexis avec quatre autres saints, le père Alexis Klepinine, Mère Marie Skoptsov, le fils de cette dernière Georges, et puis Elie von Dabinski.
Écoutez, merci beaucoup mon père. Alors je rappelle votre conférence sur Intellexie de Dugine, que l'on peut retrouver sur Internet, et ce lien sera bien sûr sur la page de notre émission. C'était Saint-Alexis d'Ugine avec le père Alexis Struve. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, avec Jean-Luc Gadreau.